Bonne journée à tous. France Inter, il est 7h40. C'est Sandrine Mercier.
Merci Agnès Bonfillon. Imaginez une grosse boule ronde avec deux cyclistes fous suspendus à leur mini-disque, leur appareil photo, leur caméra et leur ordinateur. Ils enregistrent des musiques qui s'échappent des cultures. Isabelle et Xavier Véron sont ici avec nous en direct jusqu'à 8h. Alors vous avez amené votre vélo, donc Isabelle. Alors je suis très impressionnée parce que d'abord il a fait le tour du monde. Vous avez combien de kilomètres, je dirais, dans les mollets?
Xavier en a fait à peu près 19 000 et moi je suis un petit peu plus fainéante, j'ai fait un petit peu plus de stop, donc j'en ai fait dans les 17 500.
Et alors sur le, il y a une guirlande bleue là attachée sous la selle.
C'est elle vient du carnaval du carnaval de Salvador de Bahia.
Et devant,
Brésil.
Et devant sur le guidon, on dirait un petit gris-gris, là vous avez accroché.
Oui, alors ça en fait, c'est un Tunisien qui nous avait donné un petit chameau au tout début du voyage. Et le chameau a été sur le vélo de Xavier. Il est devenu un peu l'objet emblématique du vélo de Xavier que tout le monde touchait. Moi, c'était le klaxon, comme vous n'avez pas pu vous empêcher de le toucher, mais vous n'êtes pas la seule. Il y a des milliers de personnes qui ont touché ce klaxon. Et ce petit gris-gris, là, il était sur le chameau de Xavier. En fait.
Merci, en tout cas, on vous retrouve tout de suite après ça. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB ghetto blues from the refugee camp. Xavier et Isabelle Véron ont pédalé autour de la planète. Alors les sons que vous avez capturés sur votre chemin, on peut les entendre donc sur votre carnet de route sur paris-pékin.org. Et voilà ce qu'on peut entendre si on clique sur Malaisie à peu près. Xavier Véron, vous fermez les yeux, c'est un beau souvenir là, quand vous êtes arrivé en Malaisie. Qu'est-ce qu'on entend là?
Je crois que pour nous, pour Isabelle comme pour moi, c'est un des plus merveilleux souvenirs du voyage. On était au cœur de la jungle, dans le nord de la Malaisie donc, et on avait rencontré toute une famille dans un petit village paumé. Et on leur avait demandé s'ils pourraient jouer un petit peu de musique tribale. Ils ont dit qu'ils en jouaient tous les jours, donc qu'ils allaient faire venir leurs voisins et jouer comme d'habitude. Et là, on a fait un grand feu. Et autour du feu, ils ont pris leur bambou coupé en morceaux et se sont mis à jouer ensemble en chantant.
Et donc là, en fait, ils jouent tous avec des bambous. Il y a des enfants aussi. Alors, c'est un mélange de chants.
Ce sont des enfants qui tiennent les bambous, qui les frappent contre des poutres posées sur le sol. Et des plus grands enfants tournent autour d'un feu et chantent aussi, mènent le chant, je dirais plutôt.
Et des musiques comme ça, vous en avez ramené combien à peu près ?
Attention, des musiques comme celle-ci, particulièrement primitives mais aussi touchantes, je ne sais pas si on en a énormément. Des musiques du monde, on en a enregistré 46 CD de 74 minutes. Donc ça fait beaucoup de matière.
D'accord. Et vous Isabelle, alors justement, qu'est-ce qui vous a touché surtout dans ces voyages, dans les musiques que vous avez pu enregistrer ? Un exemple peut-être parmi tant d'autres ? On va l'écouter d'abord. Là, je crois qu'on se transporte quelque part en Inde.
Oui, exactement. Là, c'est une musique que j'ai enregistrée à Benares. Et c'était la deuxième fois que j'y allais dans cette ville et c'est vraiment une ville que j'adore. J'ai l'impression de recharger mes batteries, surtout qu'en Inde, on a eu des petits problèmes relationnels tous les deux. Et Xavier a été super sympa parce qu'il s'est occupé des billets d'avion pour la Mongolie à Delhi, ce qui n'est pas une chose facile parce que faut les trouver. Et pendant ce temps-là, j'ai enregistré ces musiques et c'était, ça reste pour moi des moments magnifiques.
Et là, nous sommes où exactement ?
Là, nous sommes dans une ashram de musique traditionnelle à Benares. Et c'est dans Gaudala, la vieille ville. Donc, on marche dans des petites ruelles sombres pour trouver ça. On est sûr de se perdre. On passe devant plein de petits restaurants avec plein d'odeurs différentes et tout. Et on est vraiment tout près des ghats, les fameux escaliers de pierre qui descendent dans le Gange et où les pèlerins vont se faire leurs ablutions. Et Benares, pour moi, ça reste une des villes les plus merveilleuses du monde.
Mais alors justement, comment est-ce que vous entrez en contact avec ces musiciens, ces chanteurs ? Est-ce que vous savez où vous allez ? Vous les découvrez comme ça, au hasard, au détour d'une rue ? Comment vous les avez dénichés ?
Ben, c'est... Je dirais qu'il y a presque autant d'explications qu'on a de musique. On avait quand même souvent le réflexe d'aller dans les conservatoires de musique des grandes villes, des capitales, pour nous renseigner sur les musiciens qu'on pourrait trouver dans les pays. Après, en amont du voyage, on avait déjà fait pas mal de recherches, ce qui nous a permis, par exemple, d'aller retrouver Julien Weiss en Syrie, qui est un très très grand musicien. Et sinon, après, c'est des coups de bol. C'est à force d'en parler à tout le monde... On finissait par trouver des musiciens.
Et alors, ça ressemble à quoi la vraie vie au jour le jour, je dirais, quand vous pédalez, quand vous enregistrez, où est-ce que vous dormez, comment ça se déroule une journée ?
Alors, il n'y a pas une journée type. Il y a certaines journées dans lesquelles on est dans les villes et on va faire nos petites enquêtes dans les universités ou dans les conservatoires pour chercher donc ces musiciens. D'autres journées où on est sur la route en train de pédaler et puis on est parti à 7h du matin tôt parce que c'est très rare. Tôt parce qu'il y a beaucoup de soleil très vite.
Très très rare.
Et puis au bout de 10 minutes de pédalage, quelqu'un nous fait signe, arrêtez-vous si ça vous dit de prendre un petit thé avec moi. Alors on s'arrête, on prend le thé avec lui. Et puis 4 heures après, on y est encore à discuter. Donc finalement, on n'a pas beaucoup pédalé et puis ce sera bientôt l'heure de déjeuner, donc pourquoi pas déjeuner avec lui et ensuite une longue sieste. Donc finalement on n'aura pas trop pédalé et puis en revanche le lendemain on va compenser, on va faire beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres c'est aussi relativement rare parce qu'après tout si on ne prend pas le temps de vivre, je crois qu'on est passé à côté du voyage.
Donc c'était vraiment pas un exploit sportif en fait, vous partiez...
Vraiment pas un exploit sportif, non.
Pas c'était du tout.
Plutôt une recherche de savoir vivre d'une façon différente.
Donc vous vous laissiez guider comme ça un peu aux humeurs du jour, des rencontres.
Oui, tout à fait. En fait, on a eu un problème qui finalement a été notre chance. C'est qu'au bout de 2 mois de voyage, on avait beaucoup de mal à communiquer tous les deux. Et comme il n'était pas question qu'on arrête ce voyage et que tous les deux, il fallait qu'on aille jusqu'au bout et qu'en plus, on avait vraiment monté un beau projet qui allait avec le site internet, la caméra vidéo, les reportages photos, le projet d'un bouquin éventuel. On a décidé de continuer, mais en se séparant et en se retrouvant toutes les semaines, tous les 15 jours, ce qui fait qu'on a vécu 2 voyages totalement différents, en fait. Et c'est ça qui a fait la richesse de nos voyages respectifs et c'est pour ça qu'on a réussi à partir 21 mois, puisqu'on est parti 2 fois plus longtemps que ce qu'on avait prévu finalement.
Et justement, Internet a changé un peu le voyage parce que bon, vous êtes en quelque sorte des cybernomades. Il y avait toujours un lien avec les amis, la famille ou les internautes. C'est vrai qu'avant, quand on partait, les grands voyageurs, ils étaient complètement coupés du monde des autres, alors que là, le lien, vous l'avez toujours gardé grâce à Internet.
Moi, je vous avoue qu'il y a des moments où ça me pesait quand même, parce que c'était énormément de travail, mais énormément de travail. Quand on arrivait dans les capitales, on commençait à 10h du matin jusqu'à 4h du matin suivant, quasiment sans s'arrêter. Ça pendant 2 ou 3 jours de suite, et après fallait aller tout expédier. Donc comme on envoyait les musiques aussi en fichier attaché, et que dans des pays comme la Syrie ça plante tout le temps, dès qu'on envoie un email, ne serait-ce qu'un texte, ça plante. Donc du coup ça nous prenait des heures et des heures, et pour ça internet c'était le côté contraignant. Mais d'un autre côté, on a reçu énormément d'emails qui nous ont un peu porté aussi, des gens qu'on connaissait pas qui nous envoyaient des emails super gentils et tout.
Moi j'ai vu ça sur votre site, il y avait des gens qui disaient: j'entends vous faites un voyage, si vous passez à telle ville arrêtez-vous chez moi, je vous accueille et tout.
Et là on a été très très touchés tous les deux, parce qu'à l'arrivée à Paris il y avait des gens qu'on a rencontrés pendant le voyage, dont un qu'on ne connaissait que par internet en fait. Et il était dans un autre bout de la France, il était venu exprès pour nous dire bonjour, et on le connaissait pas, on l'avait jamais vu, on avait juste reçu des emails super gentils de lui, et il s'est déplacé pour l'arrivée. C'est des choses qu'on n'oublie pas quand même.
Et financièrement, ça vous a coûté combien, une aventure comme celle-là?
Alors, ça nous a coûté personnellement, Isabelle et moi, à peu près 120 000 francs, et la totalité du budget, c'était 220-230 000 francs, le supplément, c'était les sponsors qui ont apporté les bicyclettes, les caméras, matériel électronique, et puis sacoche, équipement sportif.
Et l'ordinateur, oui. Mais il y avait combien de kilos là sur le vélo quand vous pédaliez avec tout ce matériel?
Xavier, je crois qu'il avait à peu près 25 kilos imputrescibles. Moi, j'avais à peu près la même somme, sauf que j'avais pas mal de trucs un peu inutiles avec, mais... Xavier, lui, dans son ordinateur, t'avais quoi? T'avais l'ordinateur portable, la caméra...
Le lecteur enregistreur de mini-disques, les micros, toutes les cassettes, tous les mini-disques, tous les chargeurs. Et puis, pendant une partie du voyage aussi, le chargeur solaire de batterie. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3 t-shirts, 3 caleçons, 3 paires de chaussettes, 0 pantalon de rechange, et puis 0 paire de chaussures de rechange.
Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire lors de toutes ces images, de tous ces sons? Le site internet est là, on peut le consulter. Il est très vivant, vous avez une écriture très tendre et de très belles photos aussi sur le site.
Bah, merci. Mais les photos, en fait, sont pas les vraies photos. Ce sont des photos prises avec la caméra numérique, parce que pour des questions de délai, c'était plus simple, puisque mes vraies photos, je les envoyais à l'agence Sigma, Corby Sigma, qui va s'occuper de la diffusion du sujet. Et là, pour répondre à votre question, en ce moment, on est en train de travailler tous les deux sur un projet de livre qui s'appellera Écho d'Orient, aux éditions Transboréales. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est qu'il sera vendu avec 2 CD. Donc en fait, les textes correspondront aux photos qu'on voit. C'est avant tout un album photo, mais avec des renvois aux plages musicales qu'on trouve sur les CD.
Et alors dites-moi, où est-ce qu'on est le mieux en fait, les fesses sur le vélo ou sur la chaise du bureau?
Ben, en fait, c'était un beau compromis. Je pense qu'à chaque fois qu'on était dans une ville, on avait besoin de retrouver les vélos. Puis au bout d'un certain moment, sur les vélos, on avait besoin de retrouver la ville.
Oui, et je dirais que quand on est sur le vélo, on n'a jamais été aussi heureux que dans les déserts ou bien dans les montagnes. Ça peut paraître être les endroits les plus durs, mais c'est surtout les endroits les plus beaux où on a un peu d'isolement.
Silencieux.
C'est très très silencieux finalement. On est tranquille et on est en contact avec la nature.
Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage à vous Isabelle et Xavier Véron. Bonne route pour la suite des événements.
Merci.
Voyager c'est bien, c'est le désir d'un plus grand nombre, mais pas n'importe comment. Ce sera un peu votre leitmotiv tous les samedis matins, Ludovic Duneau.
Bon, on va essayer. Le voyage, vous le savez bien Sandrine, c'est un vrai rite social dans nos sociétés occidentales et chacun s'y plie dès que notre budget le permet. Donc on part sans trop se poser de questions et c'est souvent une fois sur place que les interrogations pointent à cause d'une manière de vivre et d'appréhender la planète différente de la nôtre. Tout le monde voyage ou veut voyager, mais personne n'a vraiment reçu d'éducation, même si le mot est un peu gros. Pour Christophe Le Servoisier, par exemple, cofondateur et dirigeant d'Atalante, un voyagiste lyonnais spécialisé dans la découverte et l'aventure, il n'y a pas de mauvais touristes, seulement des voyageurs mal informés. Et il est donc à l'origine de la première charte éthique du voyageur, imaginée il y a presque 2 ans. Elle explique à celui qui va partir loin de chez lui que le respect est le gage d'une meilleure rencontre. Alors dans ce paragraphe, on nous parle de la notion du temps qui peut être différente, des tenues vestimentaires à porter. Un autre chapitre s'appelle « Seul reste l'empreinte de nos pas ». Là, il est question des déchets, par exemple. Mais dans cette charte, il n'y a que des conseils. En aucun cas, le voyagiste impose ses préceptes à ses clients.
Il n'y a aucune mesure coercitive contre vous si vous ne respectez pas. L'idée, c'est plus de faire adhérer à des grands principes qui sont plutôt des conseils très pratiques. Bah, effectivement, pourquoi on recommande de ne pas donner des bonbons aux enfants dans des coins perdus et même un peu partout, c'est que ça n'a pas de signification particulière, d'une part. Et deuxio, c'est facteur de carie. Et parfois, comme on a eu le cas au Népal, pour un certain nombre de vallées, qui dit carie dit parfois septicémie, et quand on n'a pas accès à des soins médicaux, aux antibiotiques et encore moins aux dentistes, eh bien on en meurt. Donc on a noté après le passage des trackers une augmentation de la mortalité infantile. Donc on se considère comme devant informer, non pas dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais pourquoi il vaut mieux pas faire ça. Mais c'est des choses aussi qui sont plus pointues par rapport à l'hygiène de vie, c'est-à-dire on se lave pas près des puits, on se lave pas près des rivières et des villages, parce qu'on pollue l'eau et on développe des maladies, on ne stresse pas les animaux quand on les observe, on essaye de ramener ses déchets, on n'hésite pas à acheter de l'artisanat directement aux producteurs, et puis on marchande parce que ça se fait, mais pas trop non plus, parce que parfois on marchande pour 2-3 francs, qui représente beaucoup et si peu pour nous.
Alors justement, vous Isabelle Béron, par rapport à ce qu'on entend, qu'il y avait une manière de se comporter dans le monde quand vous arriviez quelque part, faire attention à certaines choses.
Évidemment, il faut toujours être dans le respect des pays dans lesquels on est. Quand on a traversé des pays comme les pays musulmans, comme l'Iran notamment, vous aviez ses manches longues et moi j'étais voilée. Et de toutes les façons, sinon j'aurais été au poste, donc la question se pose pas. Mais je pense que ce qui change beaucoup, beaucoup de choses quand on voyage, c'est d'essayer d'apprendre un minimum de vocabulaire du pays dans lequel on se trouve. Comme ça, au moins, on peut, même si c'est des petites conversations de rien du tout, on montre au moins aux gens qu'on a fait l'effort d'apprendre.
Il est tout juste 8h sur France Inter. Le journal est signé Étienne Monin.